C'est l'heure de la revue de presse des idées, cette semaine sur un sujet qu'on a évidemment lu, entendu et vu un peu partout.
Oui, énormément de tribunes et de commentaires suite aux manifestations qui ont traversé les États-Unis depuis le meurtre de George Floyd par un officier de policier. Des événements qui ont eu également des conséquences en France. Y a-t-il une violence policière systémique? Comment penser le racisme? Existe-t-il un privilège blanc? Peut-on comparer la situation en France aux États-Unis? Que valent les images dans la recherche de la vérité? Autant de questions sous-tendues par un slogan « I can't breathe », je ne peux pas respirer, et un symbole, le genou à terre. Dans le Figaro, la journaliste Laure de Mandeville revient sur un débat intellectuel qui agite la communauté noire américaine et qui suscite un regain d'intérêt depuis 10 jours. Un débat autour de deux projets, projet 1619 vs projet 1776. Le premier, fondé en août dernier à l'initiative du New York Times, propose de relire l'histoire américaine à l'aune de l'esclavage. Selon ses partisans, nous dit la journaliste, l'esclavage serait plus que le péché originel du pays, il serait son origine, son élément fondateur. Une vision que conteste une autre partie de la communauté conservatrice noire américaine, qui voit un projet de la gauche racialiste et souhaite maintenir la date de 1776, la déclaration d'indépendance, comme date fondatrice de l'histoire américaine. Mais le racisme ne fonde-t-il pas pour autant la société américaine? Dans le média en ligne AOC, le directeur de l'Institut des sciences humaines de l'Université de Californie, David Theo Kohlberg, répond par l'affirmative. Pour l'anthropologue, l'assassinat de George Floyd, je cite, qui vient s'ajouter à une litanie de morts et d'indignités récentes impliquant d'une manière ou d'une autre la police, c'est l'assassinat de chaque personne noire. Elle met à nu, nous dit-il, la nature constitutive du racisme américain, l'indignité mortifère à laquelle le peuple noir d'Amérique est quotidiennement confronté et l'attitude tenace des blancs du tout est permis. Et l'anthropologue de craindre que Donald Trump n'attise une guerre civile à caractère racial dont il décrit certains des partis comme les Bougalous, ces milices d'extrême droite libertarienne qui organisent selon lui les pillages. La violence. Dans Libération, le sociologue américain James Nolan l'a décrit comme inhérente à la représentation de la fonction policière, basée sur le maintien de l'ordre et la répression, plutôt que sur le lien social et communautaire. Les policiers ont une vision extrêmement étroite de leur rôle, nous dit-il. Ils intériorisent une vision du monde qui vient du jeu auquel ils jouent. Nous sommes les gentils et nous cherchons les méchants. Le racisme et la violence, illustrés par les images de la mort de George Floyd et du commissariat Minneapolis, en feu.
Une violence et un racisme qui ne seraient pas l'apanage de la société américaine, Mathéo.
Non, comparaison n'est pas raison, mais parfois les destins se ressemblent et les luttes s'assemblent. Et c'est ainsi que les mouvements contre les violences policières en France, comme Droit et Justice pour Adama Traoré, se sont télescopés avec l'actualité américaine. Je ne peux plus respirer, car c'est le racisme qui nous étouffe, selon le titre de la tribune publiée par le directeur de Mediapart, Edwy Plenel, journal qui avait révélé cette semaine avec Arte et Street Press des affaires mettant en cause des policiers ayant tenu des propos racistes dans des groupes Facebook ou WhatsApp. La France n'a aucune leçon à donner aux États-Unis, sinon de se lever pour en finir avec le racisme ici même, chez elle, écrit-il, avant d'ajouter « combattre le racisme, c'est être du côté des premiers de corvée ». Car pour Edwy Plenel, le racisme est une machine de guerre contre l'émancipation sociale, il est un « cheval de Troie », je cite, de la soumission des classes populaires. Et si le racisme est un « cheval de Troie », la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, est Antigone. C'est l'écrivaine Virginie Despentes qui nous le dit dans sa lettre lue chez nos confrères de France Inter et qui a provoqué quelques réactions. « Je suis blanche », écrit-elle. « Je sors tous les jours de chez moi sans prendre mes papiers. Les gens comme moi, c'est la carte bleue qu'on remonte chercher quand on l'a oubliée. Je suis née blanche comme d'autres sont nés hommes. Car le privilège, c'est d'avoir le choix d'y penser ou pas. Je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier que je suis blanche. En France, nous ne sommes pas racistes, mais je ne connais pas une seule personne noire ou arabe qui ait ce choix. » Le privilège blanc, cette expression clivante issue des prémices du mouvement des droits civiques au XXe siècle, nous raconte La Croix, qui interviewe Daniel Sabag, directeur de recherche à Sciences Po. Ce privilège, explique-t-il, désigne le bénéfice psychologique associé à la whiteness, la blanchité, et qui fait que n'importe quel homme blanc, même extrêmement pauvre et subordonné à son patron, est au moins assuré d'une supériorité sur n'importe quel homme noir. Pour savoir si ce concept se transpose avec justesse dans la société française, le journal donne la parole à Gwenaël Calvé, professeur de droit public à l'université de Cergy, qui affirme « Il y a bien un problème de violence policière en France, mais lors des manifestations des Gilets jaunes, je n'ai pas vu l'avantage d'être blanc. Et pourtant ». Quatre paramètres justifient le parallèle franco-américain, disait Didier Fassin, invité de la grande table des idées d'Olivia Gesbert cette semaine. La surreprésentation des jeunes hommes issus de minorités ethno-raciales, l'impunité des auteurs de ces mises à mort, le déni aveugle par les autorités de ces violences et la mobilisation croissante produite par ces dernières. Mais ces procès mettent également en avant la question de la vérité, de la hiérarchie des crédibilités, selon le professeur invité au Collège de France. Il n'y a pas de vérité, explique-t-il en citant Nietzsche, puisque nous avons chacun une perspective différente sur les faits. Mais plus on multiplie les yeux, ajoute Nietzsche, plus on s'approche de la vérité objective, et les yeux n'ont pas manqué dans l'affaire Floyd. On repense alors au mot du révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, s'adressant à George Floyd lors de la cérémonie funèbre cette semaine. « Tu as changé le monde. » Rien ne dit encore, vous l'aurez compris, de quelle manière.